France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, pour l'apéro, on a rendez-vous avec Eye Haidara, l'actrice que vous avez sans doute vue dans Le sens de la fête de Dinkash et Toledano, dans En thérapie, et elle joue dans le nouveau film de Joachim Lafosse, à qui l'on doit notamment À perdre la raison ou Un silence. Allez, apéro, c'est parti. Bonjour.
Tu vas bien?
Bonjour.
C'est rigolo les zizi là comme ça là, ils arrivent, tu sais, ils parlent pas en plus, ils ont des mailles comme ça.
Les zizi c'est les micros. Et c'est vrai qu'ils sont tenus par deux mecs. François Audouin à la réalisation, Mickaël Simon à la technique. Mais au cinéma vous avez des micros comme ça aussi?
Ouais ouais, non mais je suis arrivée dans le bistrot là comme ça et...
C'est vrai que c'est phallique.
Ouais quand même, t'as vu?
Je sens que vous avez envie de vous encanailler.
Qui dit ça encore, encanailler?
Emmanuel Macron je crois.
Allez,
ça
venez,
va on va s'asseoir. Très très bien, je suis ravie de vous voir, venez, on va s'asseoir.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Donc Eye Haidara, on est d'accord que cette émission commence avec le mot zizi, quoi.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Eye Haidara, après toute une partie de longue carrière théâtrale dont on va parler pendant l'émission, à votre tout début au cinéma, vous n'êtes donc pas connue, et là on est en 2010... Vous tournez pour Jean-Luc Godard.
Ouais.
Ça s'appelle Film Socialisme, l'un de ses derniers films. Sous-titre, La liberté coûte cher. Comment vous êtes arrivée au casting de Jean-Luc Godard à vos débuts?
Bah, par un casting classique, en vérité. Il a fait appel aux agents. J'habitais à Londres, donc à l'époque. Et tout était prétexte à rentrer à Paris. Donc j'ai eu un casting... avec un texte qui m'a été envoyé qui voulait pour moi à l'époque absolument rien dire. J'ai vu ouais, je viens. Genre prétexte pour aller à Paris et pour aller voir mes potes. Donc je suis venue, j'ai rencontré Jean-Luc Godard un matin en sortant de l'Eurostar, pas très loin de la gare du Nord d'ailleurs, chez son assistant. Et c'était assez lunaire quand même comme rendez-vous. Et il me parlait de son texte que j'avais lu qui voulait... j'avais rien compris. Donc,
et vous avez fait que semblant que, semblant que vous aviez compris ou pas?
Non. Non, mais
vous l'avez dit, poli. Jean-Luc, j'ai rien compris.
J'ai pas dit ça. J'ai dit, quand il m'a dit alors qu'est-ce que vous en pensez, je me suis dit, moi je me suis dit qu'on allait être là, qu'on allait en parler, que j'allais pouvoir un peu comprendre ce que vous voulez. Et puis, il dit, non, mais vous aviez pas vu un peu sur la révolte. Non, peut-être, mais peut-être que si vous m'expliquez un petit peu, j'ai fait des parades un peu comme ça tout le temps. Ouais. J'étais hyper polie. Puis après, je suis partie, j'ai été voir des copines, une copine à son bureau, et elle me dit, ah, trop bien, t'es à Paris, qu'est-ce que tu faisais? Je vois, j'avais un casting ce matin avec c'est pour un film. Enfin, c'est pas s'il va se faire, mais un film de Godard, Jean-Luc Godard. Elle me dit, genre, t'étais avec Godard ce matin? Je lui dis, bah oui, j'étais avec Godard, mais c'est pas le même Godard que tu racontes. C'est pas Pierrot le Fou, hein, c'est un vieux. Et elle me dit, il y a qu'un seul Jean-Luc Godard. Je dis, mais non, mais c'est pas...
Attendez, la pause, vous êtes en train de me dire que vous avez fait un entretien avec Jean-Luc Godard en croyant que c'était un homonyme?
Ouais, j'avais pas tout raccordé, j'étais déphasée, Pourtant, je fume pas.
Bah, jet lag, le fameux jet lag de Londres.
Oui, c'est ça. J'ai pas tout mis ensemble.
Et après, quand vous avez vu le film tourner, vous avez compris le film?
Rien du tout.
Ah non, toujours pas.
Bah non, mais c'est un film de punk. T'entends plein de choses, par contre. On entend plein de choses, mais comprendre, je crois pas.
Et quel enseignement vous tirez de Jean-Luc Godard et d'avoir tourné avec lui aujourd'hui?
Moi, j'ai vu un mec assez visionnaire, pour le coup, parler de la montée du socialisme à cette époque-là. On était en 2008, hein, donc c'était juste un peu avant François Hollande. Et je me suis dit, mais c'est fou, ce mec, il est visionnaire, il a des pouvoirs magiques. Il me parlait sur le tournage de... Il m'a dit, un jour, on fera des films avec un portable. Enfin, j'étais assez surprise par... les coups d'avance qu'il avait à ce stage.
Ah, donc ça nous encourage à revoir Film Socialisme, donc,
ouais.
Parce qu'on va peut-être se dire c'est aujourd'hui.
Peut-être.
Sous-titre, La liberté coûte cher.
Ouais.
Et donc ça, voilà, moi, l'occasion de vous revoir à vos débuts au cinéma, Eye Haidara. Dans un ouvrage collectif qui s'intitule « Noir n'est pas mon métier », vous écrivez « Je voudrais que le cinéma français ressemble à l'école primaire de mon enfance ». Ouais. Alors, elle ressemblait à quoi, cette école primaire de votre enfance?
Là,
à Paris, au Batignolles?
C'était une école primaire où on pouvait rêver, où la ligne d'horizon, elle était
waouh. Enfin, quand j'étais à l'école primaire et que j'ai découvert le théâtre, il n'y avait pas de limite. Je faisais tout. Je me souviens d'avoir joué un grand-père, tu vois. Et j'aimerais bien que le cinéma, ça soit ça, le théâtre, le cinéma. Franchement, ça m'a frustrée de me dire que. Ah ouais, je vais pouvoir jouer que des femmes. Moi, je voulais jouer tout. Je veux jouer toujours tout. Je veux jouer des extraterrestres. Je veux jouer des femmes, des hommes, des petits, des grands, des moyens, des verts, des rouges, des oranges.
Mais c'est possible si on peut tout jouer.
Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Et ouais, j'aurais rêvé que ça ressemble à ça, qu'il n'y ait pas de, barrière.
Quoi. Ok. Bon, un film sur François Bayrou, vous prenez le rôle de François Bayrou, quoi.
Bah, s'il est bien écrit, ouais, carrément. Je peux. Hein.
Ah oui, intéressant. Donc c'est l'école qui vous fait découvrir votre vocation de théâtre. On va y revenir, bien sûr. Là, vous êtes dans une famille de 6 enfants. Quelle place vous occupez dans la fratrie ?
Je suis la 4e.
Ok. Et fille, garçon ?
Je suis la dernière fille. Après, il y a 2 mecs.
Ah ouais. 4 filles, 2 mecs, et on dit une fratrie. Je me suis renseignée.
C'est pas moi qui ai fait le français.
J'ai pas trouvé. Bah ouais, mais je trouve. Vous voulez pas essayer de trouver avec moi un nom épicène ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Ah ouais.
Non, je pense que chaque famille devrait avoir son nom en plus.
Et d'être à cet endroit-là dans la fratrie, ça fait de vous quelqu'un de spécial aujourd'hui ?
Enfin, ça m'a forcément construit quelque part. Enfin, j'ai une place particulière. Hein. Je suis la dernière fille. J'ai été un peu gâtée, ouais, un petit peu, ouais. Aujourd'hui, c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai 3 grandes sœurs. J'ai 2 petits frères. Et c'est bien d'être beaucoup, quoi. Je vois mon fils qui est tout seul, je me dis c'est bien d'être une.
Lui est fils unique. Ouais. Vos parents sont maliens et votre papa, il est des origines marocaines.
Ouais.
Mais racontez-moi, c'est possible, historiquement, l'immigration du Maroc vers le Mali, comment ça se passe ? Moi, je suis nulle là-dedans.
C'est vrai ? C'est pas loin.
Oui, je sais.
Tu peux le faire en voiture, même à pied.
Eh oui,
C'est le commerce, hein, je crois.
Par le commerce, bien sûr, comme souvent.
Le commerce, mon père est né au Mali, hein, mais il est d'origine marocaine. Son grand-père, son père sont marocains, et sa maman, je crois qu'elle a des origines soudanaises.
Ah ouais. Elle est issue de la noblesse, mais la noblesse pauvre.
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la noblesse, tu te dis c'est les gens qui habitent ici dans le coin, qui parlent comme ça. Mais non, mon père, il vient de la noblesse de par sa famille, de la lignée dont il vient. Il vient d'une lignée chérifienne. Mais c'est pas des gens. C'est des gens qui ont beaucoup de terres. Mm-hmm. C'est pas des gens qui sont riches.
C'est pas Ayé de Haïdara, par exemple.
Voilà.
C'est ça, hein. Ouais.
Voilà.
Et votre maman, elle a été contractuelle au ministère de l'Intérieur.
Ouais.
Sous quel ministère ?
C'est plein de choses, toi. Oh là là, ma mère en a fait beaucoup. Elle s'est arrêtée, le dernier qu'elle a fait, c'est celui qui est derrière les verrous, là.
Mais non ! Elle a travaillé au ministère de Sarkozy.
Ouais. Non, elle a fait plein.
Elle avait un préféré ?
Tu peux pas dire ça, c'est pas bien, on va me tomber dessus. Parce qu'en plus, je sais ce qui est son préféré, mais ça me ferait. Non, je peux pas te dire ça, c'est pas bien. C'est son anniversaire en plus, ça va bien. Je vais pas la charrier aujourd'hui.
On lui souhaite bon anniversaire.
Mais bien, parce quoi
mini...
Et dit enchanté. Non, je crois que c'est le côté.
Elle a connu Charles Pasqua.
Ouais.
C'est beau.
Ouais.
Et d'ailleurs, en 2007, quand vous rentrez de votre premier festival de Cannes, vous voulez tout de suite raconter à votre mère le festival. Et elle vous dit quoi ?
Elle n'a pas eu le temps de passer à l'aspirateur, donc elle me demande de passer à l'aspirateur. Ouais. Et puis elle devait sortir en plus. Et quand elle reviendra, je lui raconterai le reste.
Ouais. Ça remet bien les pieds sur terre, ça.
Bah, tu descends, ouais.
Tu redescends d'un coup. C'est pratique, ça. Aujourd'hui, vos parents, ils sont partis s'installer à la campagne. Mais au Mali. C'est des néo-ruraux
Non, alors ils ne sont pas installés à la campagne au Mali. Non, ils vont au Mali, enfin là ils sont en France d'ailleurs, mais ils passent beaucoup de temps au Mali, à Bamako, ils ont une maison, et ils ont des terres en dehors de Bamako, à la campagne, ils ont un champ de 4 hectares et ils font de l'agriculture. Ils se sont découverts une passion d'agriculteur. Cultive la terre.
Ah oui.
Alors ils font des récoltes, ça marche et puis ça marche pas. Mais ça les éclate. Et moi, ça m'éclate de les voir vivre leur retraite comme ça.
Ah oui, c'est génial.
Ouais.
Vous qui êtes française née en France, quel rapport vous avez avec le Mali aujourd'hui ?
Bah, j'ai été au Mali très tard. Hein. J'ai été au Mali, j'avais 19 ans, la première fois. J'ai été quand même frappée par ce que mes parents avaient laissé, par les sacrifices qu'ils avaient faits. ça m'a apparu vraiment concrètement là, à ce moment-là. C'était plus quelque chose qu'il nous racontait à la maison. C'était assez fort. Et j'aime bien le Mali parce que j'aime les artistes maliens beaucoup. J'aime la vie artistique du Mali. Après, le pays, c'est un peu difficile. Hein. Il y a un truc très difficile dans la mentalité où j'ai du mal.
Ouais.
Ouais.
La mentalité, on peut décrire peut-être comment vous la ressentez ?
Ce serait long, là. Il faudrait qu'on fasse une autre émission.
Allez, ah bah, on programme ça.
Non, ouais, j'ai du mal avec la corruption, avec tout ça. Avec, ouais, j'ai du mal avec ça.
Ouais, bien sûr. J'imagine que vous avez profité des vacances pour aller au Mali, là où on va parler vacances avec le film que vous nous proposez, 6 jours ce printemps-là, film de Joachim Lafosse, qui vient de recevoir d'ailleurs le prix du meilleur scénario et de la meilleure réalisation au Festival international du film de Saint-Sébastien. Mmh. Il sort sur nos écrans le 12 novembre. Et vous incarnez Sana, mère de 2 enfants qui est récemment séparée du père. C'est les vacances scolaires de printemps. Mmh. Et le plan qui est prévu tombe à l'eau. Et comme elle est séparée, un peu déclassée, elle n'a pas beaucoup de thunes. Et donc, pour ne pas décevoir ses enfants, il faut qu'elle trouve un autre plan. Et là, elle va faire une petite folie. Elle a toujours les clés de la magnifique villa de ses beaux-parents sur la Côte d'Azur. Et elle va l'occuper une semaine en loose day. Passer des vacances de rêve, mais quand même dans la peur de se faire gauler.
Ouais.
C'est comme un... Il y a un léger côté thriller doux.
Ah, j'aime bien comment
thriller
tu...
doux comme ça.
Je crois que je le fais pas aussi bien que toi. Tu vas faire la pro à la place. Tu l'as fait avec une gourmandise, là, le pitch.
Oui.
J'adore.
Ah oui, parce que j'ai aimé ce film. Où vous tenez le premier rôle. Vous qui choisissez souvent des rôles de femmes qui ont des combats à mener, quel est le combat ici ? Dans ce film de Joachim Lafosse, 6 jours ce printemps-là.
Ah, le combat, c'était de montrer ces femmes, enfin cette femme, qui vit justement ce glissement social dû à la séparation. Et c'était surtout un. Alors, c'était pas aussi apparent au scénario, mais ça l'a été quand j'ai découvert le film. Je sentais beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur envers ses enfants, mais en même temps quelque chose de très franc et direct pour leur expliquer la situation, pour leur dire j'ai plus le droit d'être là, moi je peux plus faire partie de ce groupe, de cette famille, de votre papa, enfin je peux plus en faire partie, moi je serai à part maintenant, de leur apprendre, de les accompagner aussi à cette fin d'enfance.
Fin de l'insouciance donc.
Ouais, ou fin de l'insouciance aussi. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'était cette petite chose-là que j'avais envie de tirer en grand.
Ouais, ouais. Ce film, c'est ce contraste, l'insouciance des vacances, mais la fin de l'insouciance.
La fin de l'insouciance pour les enfants.
Pour les enfants. Parce que ma lecture du film, c'est un film finalement sur une forme de clandestinité intime. C'est-à-dire ne pas avoir le droit d'être là alors que c'est en partie chez soi, c'est chez les grands-parents des enfants.
C'est chez eux, c'est les enfants. Je crois que le divorce, ça doit surtout pas... La parentalité ne doit pas subir la séparation. On ne cesse pas d'être parent, on ne cesse pas de faire partie de la famille parce qu'il y a divorce. On est toujours un peu ce qu'on a construit. Quand on construit quelque chose, quand on fait famille, quand on a des enfants avec quelqu'un et que les corps se séparent, il faudrait trouver en tout cas la forme pour que les enfants ne le vivent pas de cette façon-là. Et cette maison, c'est un peu ça. C'est pas une lutte matérielle, hein, le film, c'est plutôt... cette maison, elle représente un peu... C'est le symbole de ce qu'elle perd socialement. Ça, c'est évident. Mais pour les enfants, c'est important... en tout cas aux yeux de Sana, et à mes yeux aussi en tant que maman, de leur montrer qu'ils font toujours partie de la famille. Mmh. Voilà, même si elle va être un peu mise à l'écart.
Ouais. La clandestinité aussi, ça se passe à l'intérieur de son peut-être couple qu'elle cache aux enfants. Ils partent avec un ami de maman, qui est un peu plus qu'un ami. C'est le sort des femmes aussi, ça, de devoir à un moment peut-être cacher les choses. C'est compliqué de ne pas assumer.
Ouais, il y a beaucoup de maladresse à cet endroit-là. Hein. Je crois que c'est tellement humain. Moi, je me suis toujours raconté, en tout cas sur ce film, que c'était une séparation récente. Et est-ce que ce mec va durer chez elle ? Je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il est plus amoureux qu'elle, déjà. Et c'est aussi préserver ses enfants. Est-ce qu'on présente comme ça un copain à ses enfants en leur disant bon ben voilà, je me suis séparée de votre père et voilà, lui, c'est mon copain. Je trouve que c'est un peu léger, mais en même temps on peut pas se priver de cette liberté. Je crois que Sana, elle a décidé de vivre maintenant, d'être libre et d'arrêter de s'occuper du papa, d'arrêter de s'occuper de la famille, et ça on lui reproche et on lui reprochera toujours. Mais voilà, vivre, être insouciante avec cet homme, mais en même temps ne pas le déclarer à ses enfants, je crois que ça fait partie des maladresses qu'on a à nous, être humains.
Votre partenaire,
Jules Varingo.
Jules Varingo joue donc
le copain. C'était là mon partenaire à moi, je me disais, de quoi tu te mêles.
Charline Van Nacker, Bistroscopie.
Et Yaya Hidara, en gros, cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une femme qui se met un peu dans la sauce quand même.
Bah. Se met tous un peu dans la sauce, ouais. Non ?
Vous auriez fait comme elle ?
Je sais pas.
Dans sa situation, il n'y a pas de plan, j'ai les clés de, je sais pas, d'un endroit où je ne peux pas vraiment aller. Vous seriez mise dans la sauce ou pas ? Est-ce que vous êtes du genre, je me mets
non,
dans la sauce ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je me suis posé la question beaucoup. Hein. Mais en vivant cette histoire, je me dis, mais bien sûr, je n'ai pas envie de décevoir. Je regarde les enfants... J'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie que ce soit des vacances pourries pour eux, ils ne le méritent pas. Mais c'est vrai qu'en tant que moi, je me pose forcément la question. Et je pense que mon fils, il peut m'emmener à faire plein de choses qui me dépassent moi-même et que je n'anticiperai pas, enfin, que je peux pas anticiper auparavant. Mais comme je suis consciente de ça, je suis consciente qu'avec mon fils, je me surprends. Je me dis, je sais pas si je l'aurais fait en tant qu'aillé.
Ça fait donc résonner un peu la maternité chez vous. Et c'est, disons, une forme de... Presque pas d'allégorie, parce que c'est quand même assez fidèle à l'histoire un peu de Joachim Lafosse.
Ouais.
La séparation de sa maman et la fin de l'insouciance pour lui en tant que gamin. Donc vous avez joué la mère de Joachim Lafosse.
J'ai joué la mère de Joachim Lafosse, mais c'est complètement un souvenir d'enfance. Hein. C'est ça, et c'est ce qui était génial, c'est que j'ai pu beaucoup... discuter, parler, échanger avec lui et le questionner, lui, sur ses souvenirs. Parce que c'est un souvenir d'enfance, et les souvenirs d'enfance, on sait très bien qu'ils sont... C'est pas précis, en fait. C'est qu'il y a plein de choses qu'on oublie, il y a plein de choses qu'on n'interprète pas de la même façon quand on grandit, et ça m'a permis d'échanger avec lui et de construire avec lui comme ça.
Et les enfants sont joués par Léonis et Théodore Pinheiro-Muller.
Ce sont des jumeaux.
6 jours ce printemps-là, 11e film de Joachim Lafosse, qui est un cinéaste un peu subversif, tourmenté, avec une filmographie qui est faite de tensions, parfois qui parle de manipulation et d'abus. Ici, c'est un film plus tranquille, qui semble marquer un tournant dans sa filmographie. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, est-ce que c'est un tournant ? Est-ce qu'il ne reviendra pas à des films comme précédemment ? Je pense pas, mais en tout cas, je crois qu'il avait envie de ça.
Un petit mot à propos de Joachim Lafosse, parce qu'il y a eu un an une enquête de Libération où il était soupçonné de harcèlement moral par plusieurs femmes qui ont témoigné. Il a fait un travail sur lui. C'est un des rares cinéastes qui a repris contact avec les femmes qui l'ont accusé d'harcèlement moral, qui dit qu'il fait un travail sur lui. C'est intéressant de l'entendre d'ailleurs raconter ça. Vous seriez partante pour tourner à nouveau avec lui ? Ça s'est apaisé ?
Ah oui, aujourd'hui, complètement. Oui, c'est un travail qui continue toujours, hein. Que je salue d'ailleurs. Je pense que oui, je pourrais retravailler avec lui. Je n'ai pas de raison, ça s'est bien passé avec moi. Et avec les enfants, on a vécu quelque chose de... C'était assez intime, on était une toute petite équipe.
C'est un huis clos quand même dans cette maison.
Ouais, c'est un huis clos, mais même sur le tournage, nous on était vraiment une toute petite équipe. Hein. On était genre une vingtaine et c'était très artisanal. Mais en dehors de ça, je crois que c'est des conditions optimales parce qu'on met le meilleur de soi et puis qu'on travaille à l'endroit où on a envie d'être, je crois. C'est vraiment... On raconte des histoires de façon artisanale et c'est comme ça que j'ai rêvé le cinéma, moi. En vérité.
Charline Van Nacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée devant un thé vert avec Eye Haidara, que vous avez sans doute vu dans Le Sens de la Fête, que vous avez vu dans En Thérapie, que vous pouvez voir dans 6 jours ce printemps-là, le prochain film de Joachim Lafosse à l'affiche le 12 novembre. Eye Haidara, vous avez mis du temps à assumer que vous vouliez devenir comédienne. Vous avez rêvé à d'autres boulots, vous avez fait des petits boulots, un Doug d'art du spectacle. Quand est-ce que vous vous êtes autorisée à en faire votre objectif?
C'est pas venu avec évidence que c'était un métier pour moi au départ. Je pensais que c'était une activité qui allait m'accompagner tout le temps. Et ça commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis formulé le fait que peut-être il fallait que ce soit vraiment mon métier. Et ça, ce moment, il vient quand je commence un peu à souffrir de ne pas être sur scène, de ne pas jouer. Parce qu'avant, c'était assez cadré. Quand on est à l'école, on est à l'atelier, on prépare un spectacle, et puis après, on fréquente des conservatoires ou des cours d'arrondissement et tout. Mais quand il n'y avait pas mon prof et quand il n'y avait pas les structures, j'étais un peu abandonnée et je me disais, mais là, c'est en train de me quitter, là, je ne joue pas.
Ça passait comme pour un hobby plus que pour un métier.
Voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, mais ça ne doit pas être que mon hobby, ça doit être ce que je fais tout le temps. Et donc, voilà, il faut s'y mettre sérieusement.
Je veux en vivre.
Voilà.
Et s'y mettre sérieusement, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit sérieux?
Et pour que ce soit sérieux, il faut se dire qu'il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut se dire qu'il faut attendre. Enfin non, il ne faut pas attendre, mais c'est vrai que c'est un métier où le facteur chance, il est quand même très, très... Il prend beaucoup de place. Moi, j'ai eu la chance, juste après l'école avec Robert Cordier, de faire un premier long-métrage, Regarde-moi. Ensuite, il y a eu des moments de vide, donc je faisais des petits boulots et tout. Et puis j'ai rencontré un agent, et puis j'avais des castings de temps en temps. Mais à côté de tout ça, j'ai rencontré aussi des amis qui étaient aussi des passionnés de théâtre. Et de jouer, de se faire des petits plans sur la comète, ça m'a aussi beaucoup aidé à tenir. Je ne suis pas toute seule à avoir cette envie de jouer. Donc jouer dans une cave, ce n'est pas grave, mais au moins on fait des choses. Mm-hmm. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai... Il y a eu Regarde-moi, puis un petit peu après, il y a eu Socialisme. Puis après, il y a eu la rencontre avec Jean-Luc Godard.
Le vrai Jean-Luc Godard.
Exactement. Et puis ensuite, il y a eu le théâtre, surtout. Ouais. Le théâtre m'a beaucoup aidé. Hein.
Ouais.
Le théâtre m'a fait énormément de bien. Enfin,
et aujourd'hui, quand vous jouez au cinéma, d'avoir écolé tant de temps dans le théâtre, ça vous fait embrasser vos rôles différemment que des acteurs ou des actrices qui auraient fait moins de théâtre?
Ouais, alors je vois qu'il y a une façon différente, il y a une discipline qui est différente chez les acteurs, effectivement, qui viennent du théâtre que chez les acteurs qui ont fait uniquement du cinéma. Mm-hmm. Moi, j'aime les deux. J'aime le théâtre comme le cinéma. Le théâtre, j'en ai besoin, ça me manque même physiquement, là, en ce moment.
Ah oui, vous le sentez dans votre corps,
quoi. Ah oui, 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 oui. Non, mais le théâtre doit faire partie de ma vie constamment et... Quand je joue pas, je joue toute seule chez moi dans le noir. Si tu veux, tu peux venir à un spectacle, mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Mais voilà,
Vous faites ça,
hein? Bien sûr.
Donc on rappelle, vous voulez retourner au théâtre, jouer un peu, vous voulez incarner un homme plus âgé, peut-être.
François Bayrou.
Voilà, donc c'est François. Si vous avez un projet de François Bayrou au
non,
théâtre.
Non, t'en as pas un autre mieux quand même que ouais. François Bayrou.
Ah bah ouais, c'est vrai que. Vous voulez incarner un vieil homme blanc, mais classe, quoi.
Je sais pas si c'est forcément le Dalai Lama, je pourrais aussi.
Ah
ouais.
Ah,
ça, bah voilà, là c'est classe,
ça c'est classe,
ça c'est bien.
Ouais. Sinon il y aurait quoi, Dominique de Villepin, on sait jamais s'il devient président. Vous voyez pas mal pouf.
Non, mais en même temps, c'est pas mal de jouer des losers. Moi j'aime bien. Hein.
Ouais. Je trouve que les losers magnifiques.
Il y a quelque chose de touchant chez chez ces gens. Je trouve les
losers, il y a beaucoup de choix. Pour trouver qui incarner, c'est compliqué. Dans Le Sens de la Fête, vous avez joué avec Jean-Pierre Bacri. Ça a été une école aussi pour vous, non?
Ouais, ça a été une école de le regarder, même lui, de travailler avec lui. La rencontre avec Eric et Olivier.
Nakache et Toledano,
et Nakache et Toledano, effectivement. Et surtout, le genre, la comédie, j'avais jamais fait. J'avais jamais fait, moi, au théâtre. Je suis dans la tragédie. Hein,
ah, vous aimez les classiques, vous.
Ouais. J'aime bien, ouais. Et puis même au cinéma, j'avais pas joué dans des films très drôles. Donc déjà, ça, la comédie, la rencontre avec la comédie, la rencontre avec Jean-Pierre, ouais, c'était une vraie école pour moi. Mais c'était la meilleure école, c'était la plus belle.
C'était une de vos références, Jean-Pierre Bacri. Donc vous avez joué avec votre référence. C'est... Et en plus, en boxant dans sa catégorie, avec aussi Gilles Lellouche. Donc là, c'est vous dites quoi ? Un peu tête brûlée, ouais, j'y vais, quoi. Je vais boxer avec eux, ok.
Et à partir de quand on te donne la chance de le faire, tu y vas. Alors même si je suis allée avec vraiment beaucoup de tous les jours, je pensais qu'on allait me virer. Je me suis dit, mais ils se sont trompés. Tu te dis, voilà, autant si je me fais virer ce soir parce que je suis pas assez bonne, vas-y, donne tout aujourd'hui. Donne tout tous les jours.
C'est une bonne philosophie, ça, de se dire, si je suis virée demain, je donne tout. Moi, j'aime bien. Ça, je vous conseille de le pratiquer, ça peut aider. Ayez Aïdara, vous avez participé à cet ouvrage collectif « Noir n'est pas mon métier ». Il y a beaucoup d'actrices noires qui disent « J'en ai marre qu'on me propose des rôles de femmes de chambre ou de nounou ». Vous, vous avez incarné ces rôles dans « Frotter, frotter » par exemple, sur la grève des femmes de chambre à l'Ibis des Batignolles ou « Les femmes du Square », vous jouiez une nounou. Vous, vous voulez en faire quelque chose ?
Ah oui, complètement.
Vous en faites une force ?
Alors après, moi j'ai la chance aussi... d'incarner une nounou à l'écran en premier rôle, une femme de ménage en premier rôle.
Ah oui.
Je pense que c'est aussi, il y a la nuance hein, de l'actrice qui dit j'en ai marre d'incarner ces rôles-là parce que c'est des rôles invisibles. Invisibles comme dans la vie. C'est pas des rôles qui racontent quelque chose socialement, c'est pas des rôles engagés. Moi, j'ai eu la chance de raconter des vraies histoires à travers ces personnages-là. Et en plus, c'est quand même un peu ce que j'aime, moi. C'est vraiment tirer les invisibles et les mettre au centre. Donc ça fait partie de la veine du cinéma que j'aime.
Et vous expliquez que dans votre formation théâtrale, pour préparer le conservatoire, vous auriez souhaité jouer des classiques et on vous orientait assez systématiquement au début vers du contemporain.
Alors, pas pour préparer le conservatoire, non. Parce que moi, j'ai pas préparé le conservatoire. Je savais même pas que... Enfin, c'était même pas...
C'était pas accessible dans votre tête, le conservatoire ?
Ouais, c'était pas envisageable, c'était pas accessible. Et c'est bête d'avoir pensé ça, en fait. Mais je pense que je l'ai pensé aussi parce que qu'on m'encourageait pas à travailler des classiques. C'est aussi pour ça que j'ai pensé. Tout ça s'ajoute. Oui. Mais c'est vrai que j'ai dû attendre de rencontrer Éric Vignier pour qu'il me dise... Mais, bien sûr que tu peux jouer des grands classiques, bien sûr que...
À Lorient, où vous avez joué 3 ans à sillonner la France,
ouais.
Et donc c'en était fini de l'autocensure de « je peux pas jouer ces classiques ». Ouais.
Mais c'est marrant parce que avant de monter sur scène, moi je fais souvent, mais avant de jouer tout le temps, je fais souvent des cauchemars et c'est souvent les mêmes. C'est souvent j'arrive pas à accéder au plateau, j'arrive pas à accéder au plateau de tournage ou à la scène, et je fais tout le temps les mêmes rêves, c'est horrible. Mais ouais, il y a un truc, genre je suis empêchée, je me retrouve dans une galère et je suis toujours empêchée. Et avant la première de la Place Royale à Lorient, j'avais fait ce rêve là qui encore m'avait empêchée de dormir. J'étais très fatiguée, je l'avais raconté à Eric. Et il m'a dit, mais Yé, tu crois que te mettre dans Angélique de Corneille, c'est un acte politique. Et je me suis dit, tu vois, c'est jamais fluide. Voilà.
Ouais. C'est jamais fluide. Vous dites, une actrice doit briller et moi, je rêve d'être banale. Et aujourd'hui, avec ce film de Joachim Lafosse, où vous incarnez le premier rôle, et avec votre carrière et tous les rôles que vous avez joués au cinéma et au théâtre plus récemment, ça y est, on l'approche un peu, ça, ou pas ?
On approche quoi, la banalité ?
D'être, bon, là, évidemment, c'est un thème qu'on aborde ensemble, mais on aurait très bien pu ne pas du tout l'aborder pendant l'interview.
Ouais,
surtout à propos de ce film de Joachim Lafosse.
Bah ouais.
C'est pas important que l'actrice soit noire ou pas dans ce film, non ?
C'est tellement pas important. Mais voilà, moi ce qui m'importe et ce que j'aime vraiment dans le cinéma, c'est quand le cinéma il arrive à faire ressortir l'humanité, voilà, dans toutes ses facettes. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Et il n'y a pas d'histoire de couleur, vraiment.
Et puis vous dites, plus je pratique ce métier, plus je trouve qu'il rend tolérant.
C'est vrai.
Et dites donc, on tient un truc, là.
Non, mais c'est vrai, tu vois, tu me proposes de Villepin. Je suis sûre que demain, si je joue de Villepin, je vais apprendre à l'aimer, déjà. Mon père, il me dit, c'est tout le temps un truc, je dis, c'est con, celui-là, il est nul. Bah ! Il me dit, oui, mais il a un papa et une maman qui l'aiment, il y a forcément quelqu'un qui l'aime, donc s'il y a quelqu'un qui l'aime pour quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de bien chez lui. Oh, il me saoulait quand il me faisait ces philosophies-là. En vérité, il a raison. Il a raison, il y a forcément quelque chose de bon chez les gens. Et pas tous, hein. Il y en a, c'est plus difficile. Hein. Faut pas. Voilà, si tu me sors quelques blases, je veux dire, non, là, je vais avoir du mal. Mais je crois que, ouais, c'est ça. C'est la tolérance, c'est ça. C'est aussi d'apprendre à regarder les gens sous un autre angle, qui serait pas l'angle d'une espèce de vérité, d'évidence un peu trop facile.
Et ça, le cinéma le permet.
Ouais.
Alors on vous encourage à y aller et à aller voir 6 jours ce printemps-là, le film de Joachim Lafosse avec Eye Haïdara, avec aussi la participation de Damien Bonnard et d'Emmanuel De Vos, et puis vos partenaires, Jules Varingo et Léonis et Théodore Pinero-Muller. Merci Eye Haïdara.
Eh ben merci, c'était très sympathique.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur, Mickaël Simon à la technique, Achille Aquenin au mixage et Noémie Boncourt à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 en compagnie de Gabriel Zucman.